Les rendez-vous avec Alexandra, Jacqueline Hirsch, présidente de l'association Alexandra David-Nel. C'est tout de suite.
Bonjour à toutes et à tous. La semaine dernière, nous avions laissé Alexandra David-Nel au monastère Gompa de Lachen, au nord du Sikkim, sous sa tente. Mais en janvier, la neige s'est mise à tomber en très grande quantité et elle a rejoint la cabane, sa caverne ermitage d'Himalaya, qui lui était attribuée. En effet, 2 mètres de neige tombent en cet hiver 1914-1915. On la suit toujours grâce à sa volumineuse correspondance avec son mari, avec Philippe. On la suit pratiquement au jour le jour, mais on va quand même brûler des étapes. Février 1915, elle écrit à Philippe toujours, « Si tu le veux bien, nous ferons un saut de l'Europe enfiévrée aux Himalayas paisibles. Nous sommes dans la neige jusqu'au cou, ou presque. L'épaisseur moyenne de la couche blanche est 1 mètre. Hier, par un soleil splendide, j'ai entrepris la construction d'un shoten, le monument bouddhiste que l'on retrouve sous différents noms à travers toute l'Asie, un édifice rond sur une base généralement garée. Jadis, on y conservait des reliques, le plus souvent rien du tout. Dans la soirée, grosse aventure. On signale au loin un chien qui s'efforce de se frayer un passage dans la neige et qui ne peut y parvenir. Le pauvre apparaît en détresse et il l'est réellement. La nuit est proche. Qu'est-ce qu'il va devenir? Je dis, je vais aller le chercher. Alors autour de moi, on se récrie. Il n'y a pas de sentier frayé. Il faut descendre dans un petit ravin, remonter sur l'autre versant. Mais enfin, je verrai bien si je peux y arriver. J'ai des pantalons de flanelle, de hautes bottes de feutre et un imperméable. Allons-y. Enfin, c'est vite écrit, allons-y. Mais je t'assure que je n'allais pas vite, avec de la neige plus haut que la ceinture. Tâtant la route devant moi, avec un bâton pour me rendre compte si je ne descendais pas dans quelques trous. Après un bout de chemin, j'aperçois un de mes garçons qui grimpait revenant du village. Je le hèle et il m'accompagne. C'était une véritable expédition polaire. Nous perdons le sentier. Mon domestique tombe dans un trou. Je le tire par la tête pour l'en sortir. Et peu à peu, il me rend le même service. Nous grimpons sur des rochers que nous ne voyons pas. Et nous arrivons au chien, qui est pris sous la neige et ne peut bouger. Pour combler la mesure, l'animal effrayé et très sauvage montre des dents menaçantes, bien qu'il soit un tout jeune toutou. J'abrège les détails. On passe une corde sous l'animal et on le hale à la remorque jusqu'au monastère où il, plutôt elle, car c'est une femelle, se montre de l'humeur la plus féroce. Aujourd'hui, après avoir bien mangé, l'animal paraît de tendance plus pacifique. Oh, dans quelques jours, il sera tout à fait gentil. Il est poilu comme un yak, tout noir. Nez noir, yeux noirs, un peu de fauve seulement à l'extrémité des pattes. Cette race de chien garde les troupeaux de yaks et les tentes nomades dans les steppes du Tibet. Ce sont des bêtes à moitié sauvages, très fortes et redoutables pour les étrangers. Qu'adviendra-t-il de mon rescapé? Quoi qu'il en soit, ma petite protégée a mangé une grosse assiette de riz que je tenais à la main, mais après, quand j'ai voulu la caresser, elle a esquissé un mouvement de museau menaçant. Mais il y a déjà grand progrès, car elle n'a pas montré ses petites dents blanches et aiguës. Voilà, tous les événements, mon grand cher. Toujours en février 1915, Alexandra écrit à Philippe qu'elle a lu dans les cahiers de la quinzaine. Effectivement, Philippe lui envoyait des fois des paquets de journaux pour qu'elle soit aux nouvelles, qu'elle connaisse les nouvelles qui lui viennent de l'Occident. Donc elle a lu dans le cahier de la quinzaine, c'est une revue littéraire, la mort de Charles Péguy. En fait, il est mort pour la France déjà l'année précédente, le 5 septembre 1914. Il dirigeait le tir de ses hommes qu'il avait fait coucher, s'exposant seul. Il paraît qu'il est mort en héros. « Je le connaissais un peu », écrit Alexandra. Et puis elle continue. « Tu me dis, peut-être regretteras-tu un jour d'être resté loin, tandis que tous, ici, nous vivions ces heures tragiques de la guerre. » Je ne le crois pas. J'ai posé la question avec cette acuité de vue et de pénétration que donne l'habitude de l'analyse et de la méditation. Si j'avais été un homme, certes, je me serais engagée et j'aurais fait comme les autres. Mais comme femme, il ne me restait que le rôle d'infirmière. Si j'avais été à proximité, j'aurais offert mes services au lendemain de la déclaration de guerre. Mais étant loin, quand je serais arrivée, les cadres auraient été au complet. Très vraisemblablement, je n'aurais pas été acceptée. Peut-être aurais-je dû risquer la démarche tout de même, mais je me trouvais à court d'argent pour le voyage. Et puis, je l'avoue, il y a eu un autre souci en jeu. La crainte de ne plus pouvoir revenir ici, d'avoir abandonné pour jamais les études que je poursuis en Asie. Oui, elle est attachante, cette vie d'ascète studieux que je mène. On dit dans l'Inde que le sannyasin, quoi qu'il fasse, quoi qu'il pense, reste lié par un charme du jour où il a eu l'audace ou l'impudence de revêtir la robe archaïque du mysticisme hindou. Bon, je ne suis guère portée à la superstition, et pourtant quelquefois je me dis, qui sait, une tradition et une chaîne de pensée millénaire sont une force, une énergie aussi réelle dans le domaine mental que l'électricité sur le plan physique. 1er avril 1915, bonne nouvelle pour Alexandra, car elle écrit « Je ne mourrai décidément pas de faim pendant la guerre, quoique les envois de fonds m'aient été coupés, mais parce que le Maharaja du Népal, qui a appris ma situation, m'envoie à l'instant une lettre charmante et quelques fonds. Non point en prêt, oh, il est trop grand seigneur pour cela, mais en cadeau du genre de ceux que l'on offre dans l'Inde aux personnes qui ont adopté la vie religieuse. C'est-à-dire que le donataire se déclare le très humble obligé de celui qui veut bien accepter ses dons. C'est très aimable de sa part. Puis en fait, ça arrange bien les affaires de l'ermite voyageuse. Parfois, Alexandra songe à sa vie d'avant, celle à Tunis avec Noussi, vous savez, Philippe, Nel, son mari. Mais elle se sent singulière, si différente. Elle lui écrit « Si Noussi était ici, s'il pouvait aimer ces montagnes, ces sites sauvages, les longues heures de silencieuse méditation dans la solitude, les poètes tibétains, les philosophes hindous, comme notre vie serait différente. Et oui, mon cher mouton, il n'aime rien de tout cela. Pour beaucoup partagent ta façon de voir. Moi, c'est entendu, je suis un phénomène et je détonne dans le monde civilisé. Toute petite, j'étais déjà comme cela. J'ai de l'atavisme de nomade asiatique dans les veines, c'est certain. Dans la mémoire de mes cellules chante un passé qui illustre poétiquement les vers de Jean Richepin. Au pas lent des chevaux, par les monts, par les veaux, la caravane passe. Où va-t-elle en rêvant? Où s'en va la poudre au vent? Mais toujours en avant, les vers d'espace. Je crois que j'avais 20 ans quand j'ai lu cela dans les chansons touraniennes, et je m'en souvenais dans les steppes, là-haut, cet automne, bercée au palan des yaks qui me portaient, parmi les bruits de sonnaille des bêtes chargées de bagages, des sifflements stridents et monotones de leurs conducteurs se mêlant à la chanson de la rafale. L'on marchait des jours dans un décor identique, immense, comme celui de l'océan. Il semblait qu'on allait nulle part et l'on ne sentait aucun besoin d'arriver quelque part. À quoi bon? On allait comme la poudre au vent vers l'espace. J'ai eu la nostalgie de la vie avant d'y avoir jamais été. Au printemps, Alexandra a fourri en Vienne, qui ne l'a finalement ne l'a pas quitté, la suit depuis déjà quelques mois, et trois domestiques regagnent les ermitages. À Dewatang et sur les montagnes à pic qui surmontent ce petit plateau, il n'est pas question de neige, c'est le printemps, et le soleil tape très dur. « J'ai la peau de la figure toute brûlée », dit Alexandra. Et elle s'installe. Je fais bâtir là des baraques à flanc de montagne sur une pente extravagante et dans un terrain sans consistance qui déboule comme du sable dans les dunes. On va faire une ou deux petites terrasses, puis accrocher le reste aux arbres qui serviront de piliers principaux. Cela tiendra, je l'espère, mais j'en suis même certaine. Mais très probablement un homme de métier n'aurait pas une si belle conscience. Et pourquoi ces baraques? Voilà. Je ne puis pas passer l'été dans ma cellule de la chaîne. Un réduit de cette dimension, c'est à peu près acceptable en hiver quand on se recroqueville contre son poêle. Mais dès que le soleil se fait un peu chaud, on y manque d'air, de lumière. Et puis les lamas du monastère peuvent avoir besoin de la cabane dont je les ai privés. Bref, le Maharaja du Népal a désiré me procurer un gîte à ma convenance, où je puisse continuer mon étude du tantrisme tibétain dans des conditions requises par les usages du Tibet et terminer mon ouvrage sur le Vedanta, c'est-à-dire la philosophie indienne. L'ermitage s'élèvera à la place où j'ai séjourné dans une caverne l'automne dernier. D'ailleurs, une partie de mon, entre guillemets, appartement sera même formée par cette caverne. Le site est splendide, très ensoleillé. L'altitude doit être environ de 3900 mètres. C'est un peu plus bas que notre Mont Blanc, mais le climat des Himalayas est différent de celui d'Europe. Et puis, il va falloir qu'Alexandra nourrisse 5 personnes durant le prochain hiver. 5 personnes, c'est elle-même et ses 4 boys, ses garçons. Un poêle, quelques tapis apportent bientôt un confort, presque luxueux, à ce lieu d'éternité. Revenons un instant à la guerre. En ce printemps 1915, Alexandra pense que la guerre piétine. Elle ne tourne pas mal, mais ne se hâte pas non plus de tourner bien. Elle écrit « La vermine boche est fortement implantée. Et si nous continuons à la chasser 100 mètres à la fois, il faudra du temps avant que nous ayons déblayé notre territoire et la pauvre Belgique. Je me demande ce que l'on fera à ces coquins-là quand on les aura vaincus pour les empêcher de nuire encore. » En mai 1915, elle reparle à Philippe de ce problème d'éloignement. Vous vous souvenez, en partant, elle avait bien l'idée de rester peut-être une année en Asie. Cela fait maintenant 4 années. Alexandra continue ses projets au fur et à mesure de ses rencontres avec des personnages importants qui vont lui apporter les connaissances qu'elle recherche. Et Philippe se plaint de cette situation. Il a d'ailleurs écrit une phrase qu'elle recopie dans une lettre. « Ton indifférence au besoin d'affection tient à ce que tu le remplaces par le plaisir d'être adulé, vénéré, de jouer au saint, à l'apôtre. Si le respect et l'admiration venaient à te manquer, alors tu sentirais le vide. Elle pense qu'il la juge très sévèrement. Et pourtant, et puis écrit-elle, il n'y a pas de saint dans les boutiques. Il y a ceux qui savent, ceux qui sont éveillés, puis les autres. En mai 1915, elle revient quand même sur cette question de l'éloignement, du retour dans la maison de Philippe. Pour en revenir à une autre question que tu soulèves, je n'ai jamais envisagé l'idée que je ne doive plus retourner auprès de toi. Je ne sais le tour que les événements peuvent prendre dans l'avenir. Il est fou de chercher à le prévoir, mais en tout cas, toi, habitant l'Occident, j'ai toujours projeté d'y revenir. À vrai dire, l'Occident, la civilisation ne m'en manque nullement. Comme le disait un jour un ermite tibétain, seul sur une montagne, nu, ne possédant rien, couché à même l'Europe d'une caverne, on se sent libre, dénué de toute crainte, plus grand qu'un raja, plus qu'un dieu. Je n'en suis pas à cet extrême, je n'y serai sans doute jamais. Mon austérité se tempère d'un restant de confort. J'ai des robes chaudes et un nombre respectable de bonnes couvertures. Et mon nouveau logis sera pourvu de 3 sièges différents. Une chaise pour s'asseoir à table quand on mange ou quand on écrit. Un fauteuil de toile convenant aux heures de lecture. Et un fauteuil d'osier avec coussin. C'est un ascétisme supportable, comme tu vois. Mais quoique pas nu et couchant dans un lit, je me sentirais tout de même un peu l'âme du vieil anachorète du pays des neiges. Et du haut de mes 3900 mètres, je regarderais les capitales civilisées avec dédain. Oui, mais en Occident, il y a un mouton qui m'est cher, bien plus cher qu'autrefois, quoique ceci puisse te paraître paradoxal. Et bien souvent, il me vient un grand désir de le revoir. Ah. Ce serait déjà fait depuis longtemps si je me savais la possibilité matérielle et morale d'aller devenir entre les Himalayas et la demeure de ces moutons. Mais quand je m'en irai d'ici, je sais que je n'y reviendrai plus. Quand je me retrouverai dans ta maison, je sais que je n'en sortirai plus. J'ai toujours eu l'effroi des choses définitives. Il y en a qui ont peur de l'instable, moi j'ai la crainte contraire. Je n'aime pas que demain ressemble à aujourd'hui, et la route ne me semble captivante que si j'ignore le but où elle conduit. J'ai cessé de croire qu'on choisit, qu'on dirige et qu'on mène sa vie d'après les plans qu'on fait. Les êtres sont des épaves qui voguent au gré des vagues sur une mer sans havre. S'agiter et prévoir sont des épaves. S'agiter et prévoir, désirer et vouloir sont des actes fous. Les sages voguent et dérivent selon le vent qu'il fait, et s'amusent à noter les montées sur les crêtes dansantes et les descentes dans l'abîme glauque des flots. Tout cela est fantaisie, ombre éclose en rêve, mirage. En juin, toujours 1915, dans une lettre, elle évoque toute la beauté des Himalayas, dont, décidément, elle ne peut se passer. Le minuscule plateau où j'ai dressé mes tentes est encadré de montagnes sauvages, terminé par des arêtes aiguës de rocs déchiquetés. Plus bas s'étend une étroite vallée pleine de ces arbustes nains au feuillage aromatique, emplissant l'air de cette odeur spéciale, particulière aux hautes régions de l'Himalaya. La vallée se heurte à un cirque de montagnes, couronné de neige perpétuelle, d'où descendent des torrents. C'est très beau, très grand, un peu terrible, un décor qui dépasse la taille de l'homme. Il en est ainsi partout dans les Himalayas, dès qu'on atteint les hautes altitudes. Je n'ai jamais rien vu qui ressemble à ce pays-ci. Il y a entre 4000 et 6000 mètres d'altitude des paysages extraordinaires, gigantesques, qui paraissent appartenir à un autre monde. Oui, c'est bien là le mot propre. On avance à travers ces solitudes timidement, comme un intrus qui s'est faufilé dans une demeure étrangère. Il faut voir le massif du Kanchenjunga se dressant sur des moraines fabuleuses. On ne se doute pas auparavant que pareille chose puisse exister. Oh, je comprends la fascination que depuis des siècles, ils exercent sur les hindous et comme moi, ils en font la demeure de leur grande déité divine. Dans sa lettre de juillet 1915 à Chili, ce paragraphe qui suit doit le faire sourire et le conforter dans le besoin de son épouse d'être respectée et admirée. Le Maharaja vient de m'envoyer de Gangkok à un porteur spécial ma provision de thé tibétain. Tu sais que ce thé est sous forme de grosses briques compressées et la qualité supérieure est assez coûteuse, environ 8 roubles, soit presque 14 francs la brique. Je n'en ai d'ailleurs jamais acheté, ayant toujours été pourvu par les soins du devin Maharaja. Son frère et successeur a tenu à continuer ainsi. Le porteur, un Népalais né dans le sud du Sikkim, n'était jamais venu aussi loin, ni monté à une telle altitude. Il a mis 7 jours à effectuer son voyage à l'aller, était tout ébahi de se trouver ici. Il a dit à mes domestiques, ce n'est pas un endroit pour des hommes ordinaires, c'est bon pour des sadhus seulement de vivre ici. Les sadhus, littéralement les saints, est l'appellation courante dans le langage familier des hindous, désignant les sannyasins. Oh, les garçons au beau courrier. Dans cette même lettre, elle évoque une chose très inattendue, une invasion de sauterelles au Sikkim. Il en vient jusqu'ici, écrit-elle. Pas beaucoup, mais à la tienne, située plus bas, elle dévore tout. Les paysans sont en désespoir. Il n'y aura rien à manger cet hiver. On se bat de nouveau au Tibet et un décret a été rendu interdisant les exportations de farine d'orge. C'est une autre ressource qui va manquer aux habitants du Sikkim. Le riz, le maïs vont être hors de prix. Et je songe que les provisions d'hiver vont me coûter gros, car j'ai des domestiques à nourrir. Certaines régions de l'Inde souffrent déjà de la famine. Il semble que nous traversions une ère de cataclysme. Toujours réaliste, Alexandra, en particulier dans le domaine de l'argent, qui a été tout le temps pour elle une question cruciale, et on peut le comprendre, si elle veut réaliser son projet jusqu'au bout, l'argent est nécessaire, même lorsqu'on est à l'autre bout du monde, dans les altitudes, à manger des navets et des pommes de terre et à boire le thé offert par le Maharaja. Pourtant, cet esprit lucide, matérialiste, peut parfois choquer. Et voici ce qu'elle écrit à Philippe concernant sa propre mère, et tout cela dans la même lettre. Je ne sais pas ce qu'il adviendra de mes fonds en Belgique. Je ne crois pas à une perte complète, mais combien de temps faudra-t-il attendre avant que les valeurs belges reviennent à un cours normal et paient de nouveau les intérêts? Cela dépend de la durée de la guerre et de son issue. Je n'ai aucun espoir que ma mère soit encore vivante. Faible de corps et d'esprit, comme elle l'était, le choc qu'elle a dû ressentir, les privations peut-être qu'elle a subies ou dû avoir raison, du peu de vitalité qui restait en elle. Après tout, elle avait 84 ans et ne pouvait plus espérer de longs jours. mieux a peut-être valu pour elle que la mort lui épargne les souffrances qui sont le lot de tant de ses compatriotes. Si l'on paie par la suite les intérêts accumulés pendant la guerre, j'aurai à toucher une somme de quelque importance, ce qui m'aidera à moins importuner au sujet des fonds d'argent. Le matérialisme d'Alexandra est quand même parfois impressionnant. Je vous avais raconté dans une première émission combien les sentiments pour sa mère n'étaient pas affectueux et les mots qu'elle employait étaient très durs, comme « ma mère ne m'a jamais aimée » ou encore lorsqu'elle la qualifiait de placide personne et de grosse matrone. Ici, dans cette lettre, elle évoque la possibilité que sa mère soit morte et pense plutôt à ses fonds en Belgique, donc quand même l'héritage de ses parents. Et même après avoir signalé l'éventualité de la mort de sa mère, elle continue cette lettre par annoncer à Philippe la prochaine visite de 2 jours du Maharaja de Sikkim, un gentil garçon de 23 ans à qui le gouvernement a donné un mentor qui le suit comme son ombre et lui dit tout ce qu'il a à faire ou à dire. Elle est heureuse même si cette visite lui fait éprouver de la mélancolie en pensant à son frère défunt qu'elle avait reçu avec solennité en faisant construire par ses domestiques un arc de triomphe en branchage. Elle avait même pris des photos de son arrivée. Et elle écrit « Je revois le petit prince m'apercevant, agitant son chapeau et me criant de loin un avis au sujet du temps d'exposition à donner de l'ouverture du diaphragme de l'appareil photo. Il paraissait si jeune, si heureux de vivre. Et 2 jours après, nous partions vers le nord, vers la région des steppes. De tout cela, il ne reste qu'un morceau de crâne dans une boîte au monastère de Fodang. Il court une rumeur sur laquelle j'aime mieux ne pas m'appesantir. Il aurait été empoisonné. Il en avait si peur. Mieux vaut oublier. Tant et tant d'autres meurent chaque jour. Mais cette mort-là m'a été saisissante par le contraste de l'attachement éperdu à la vie que nourrissait le disparu. Jamais je n'aurais pensé qu'il me précéderait dans l'au-delà. Comme ils étaient vains, ces projets, ces ambitions qui ne devaient jamais se réaliser, et combien ces pensées dans son cerveau, qui à brève échéance, devaient couler lugubrement parmi le feu du bûcher. Tu croiras que je broie du noir, très cher. Non, je vois tout avec calme, le calme dont vous enveloppe les monts géants parmi lesquels je vis. En effet, retirée du monde, elle est dégagée des contraintes matérielles journalières grâce à ses bonnes, ses garçons, ses domestiques. Et donc, elle savoure son existence d'un acorette qui va durer encore jusqu'à l'été 2016. Elle écrira plus tard dans l'un de ses livres ce que j'apprenais ainsi. C'était le Tibet lui-même, les mœurs, la pensée de ses populations, précieuse sans science qui devait grandement me servir par la suite, pour l'écriture de ses livres, bien entendu. Cependant, pour ces émissions, je creuse dans ce réservoir incroyable que sont les correspondances d'Alexandra à son mari Philippe Nel. Leur relecture permet non seulement de tracer son parcours géographique en Asie durant ces 11 années, mais aussi d'approcher l'esprit, le caractère de notre grande exploratrice. Elle est sincère, claire, critique envers les autres, mais aussi avec elle-même. Et on ne l'approche pas seulement dans ce qui est grand et noble, mais aussi, grâce à cette sincérité, avec ses défauts et son caractère intransigeant. À la semaine prochaine. Thank you.